Calliste passa la nuit aux touches, au pied du lit de Béatrix et en compagnie de Camille. Le médecin avait promis que le lendemain la marquise n'aurait plus qu'une courbature. À travers le désespoir de Calliste éclatait une joie profonde. Il était au pied du lit de Béatrix. Il la regardait, sommeillant ou s'éveillant. Il pouvait étudier son visage pâle et ses moindres mouvements. Camille souriait avec amertume, en reconnaissant chez Calliste les symptômes d'une de ces passions qui teignent à jamais l'âme et les facultés d'un homme en se mêlant à sa vie, dans une époque où nulle pensée, nul soin ne contrarie ce cruel travail intérieur. Jamais Calliste ne devait voir la femme vraie qui était en Béatrix. Avec quelle naïveté le jeune Breton ne laissait-il pas lire ses plus secrètes pensées? Il s'imaginait que cette femme était sienne, en se trouvant ainsi dans sa chambre et en l'admirant dans le désordre du lit. Il épiait avec une attention extatique les plus légers mouvements de Béatrix. Sa contenance annonçait une si jolie curiosité, son bonheur se révélait si naïvement qu'il y eut un moment où les deux femmes se regardèrent en souriant. Quand Calliste vit les beaux yeux verts de mer de la malade, exprimant un mélange de confusion, d'amour et de raillerie, il rougit et détourna la tête. « Ne vous ai-je pas dit, Calliste, que vous autres hommes, vous nous promettiez le bonheur et finissiez par nous jeter dans un précipice ?» En entendant cette plaisanterie, dite d'un ton charmant et qui annonçait quelque changement dans le cœur de Béatrix, Calliste se mit à genoux, prise une des mains moites qu'elle laissa prendre et la baisa d'une façon très soumise. « Vous avez le droit de repousser à jamais mon amour, et moi je n'ai plus le droit de vous dire un seul mot. » « Ah !» s'écria Camille en voyant l'expression peinte sur le visage de Béatrix et la comparant à celle qu'avaient obtenu les efforts de sa diplomatie. « L'amour aura toujours plus d'esprit à lui seul que tout le monde. Prenez votre calmant, ma chère amie, et dormez. » Cette nuit passée par Calliste auprès de Mademoiselle des Touches, qui lut des livres de théologie mystique pendant que Calliste lisait Indiana, le premier ouvrage de la célèbre rivale de Camille, et où se trouvait la captivante image d'un jeune homme aimant avec idolâtrie et dévouement, avec une tranquillité mystérieuse et pour toute sa vie, une femme placée dans la situation fausse où était Béatrix, livre qui fut d'un fatal exemple pour lui, cette nuit laissa des traces ineffaçables dans le cœur de ce pauvre jeune homme, à qui Félicité fit comprendre qu'à moins d'être un monstre, une femme ne pouvait être qu'heureuse et flattée dans toutes ses vanités, d'avoir été l'objet d'un crime. « Vous ne m'auriez pas jeté à l'eau, moi !» dit la pauvre Camille en essuyant une larme. Vers le matin, Calliste, accablé, s'était endormi dans son fauteuil. Ce fut au tour de la marquise à contempler ce charmant enfant, pâli par ses émotions et par sa première veille d'amour. Elle l'entendit murmurant son nom dans son sommeil. « Il aime en dormant, » dit-elle à Camille. « Il faut l'envoyer se coucher chez lui, » dit Félicité, qui le réveilla. Personne n'était inquiet à l'hôtel du Guénic. Mademoiselle des Touches avait écrit un mot à la baronne. Calliste revint dîner aux Touches. Il retrouva Béatrix levée, pâle, faible et lasse, mais il n'y avait plus la moindre dureté dans sa parole, ni la moindre dureté dans ses regards. Depuis cette soirée, remplie de musique par Camille qui se mit au piano pour laisser Calliste prendre et serrer les mains de Béatrix sans que ni l'un ni l'autre puissent parler, il n'y eut plus le moindre orage aux Touches. Félicité s'effaça complètement. Les femmes froides, frêles, dures et minces, comme est Madame de Rochegude, ces femmes dont le col offre une appâche osseuse qui leur donne une vague ressemblance avec la race féline, ont l'âme de la couleur pâle de leurs yeux clairs, gris ou verts, aussi pour fondre, pour vitrifier ces cailloux, faut-il des coups de foudre. Pour Béatrix, la rage d'amour et l'attentat de Calliste avaient été ce coup de tonnerre auquel rien ne résiste, et qui change les natures les plus rebelles. Béatrix se sentait intérieurement mortifiée. L'amour pur et vrai lui baignait le cœur de ses molles et fluides ardeurs. Elle vivait dans une douce et tiède atmosphère de sentiments inconnus, où elle se trouvait agrandie, élevée. Elle entrait dans les cieux où la Bretagne a, de tout temps, mis la femme. Elle savourait les adorations respectueuses de cet enfant, dont le bonheur lui coûtait peu de choses, car un geste, un regard, une parole satisfaisait Calliste. Ce haut prix donné par le cœur à ses riens la touchait excessivement. Son gant effleuré pouvait devenir pour cet ange plus que toute sa personne n'était pour celui par qui elle aurait dû être adorée. Quel contraste! Quelle femme aurait pu résister à cette constante déification? Elle était sûre d'être obéie et comprise. Elle eût dit à Calliste de risquer sa vie pour le moindre de ses caprices, il n'eut même pas réfléchi. Aussi Béatrix prit-elle je ne sais quoi de noble et d'imposant. Elle vit l'amour du côté de ses grandeurs, elle y chercha comme un point d'appui pour demeurer la plus magnifique de toutes les femmes aux yeux de Calliste, sur qui elle voulut avoir un empire éternel. Ses coquetteries furent alors d'autant plus tenaces qu'elle se sentit plus faible. Elle joua la malade pendant toute une semaine avec une charmante hypocrisie. Combien de fois ne fit-elle pas le tour du tapis vert qui s'étendait devant la façade des touches sur le jardin, appuyée sur le bras de Calliste et rendant alors à Camille les souffrances qu'elle lui avait données pendant la première semaine de son séjour. « Ah, ma chère, tu lui fais faire le grand tour !» dit Mademoiselle des Touches à la marquise. Avant la promenade au Croisic, un soir ces deux femmes devisaient sur l'amour et riaient des différentes manières dont s'y prenaient les hommes pour faire leurs déclarations, en s'avouant à elles-mêmes que les plus habiles et naturellement les moins aimants ne s'amusaient pas à se promener dans le labyrinthe de la sensiblerie, et avaient raison, en sorte que les gens qui aiment le mieux étaient pendant un certain temps les plus maltraités. « Ils s'y prennent comme la fontaine pour aller à l'académie, » dit alors Camille. Son mot rappelait cette conversation à la marquise en lui reprochant son machiavélisme. Madame de Rochegude avait une puissance absolue pour contenir Calliste dans les bornes où elle voulait qu'il se tînt. Elle lui rappelait d'un geste ou d'un regard son horrible violence au bord de la mer. Les yeux de ce pauvre martyr se remplissaient alors de larmes. Il se taisait et dévorait ses raisonnements, ses vœux, ses souffrances, avec un héroïsme qui certes eût touché toute autre femme. Elle l'amena par son infernale coquetterie à un si grand désespoir qu'il vint un jour se jeter dans les bras de Camille en lui demandant conseil. Béatrix, armée de la lettre de Calliste, en avait extrait le passage où il disait qu'aimer était le premier bonheur, qu'être aimé venait après, et se servait de cet axiome pour restreindre sa passion à cette idolâtrie respectueuse qui lui plaisait. Elle aimait tant à se laisser caresser l'âme par ces doux concerts de louanges et d'adoration que la nature suggère aux jeunes gens. Il y a tant d'art sans recherche, tant de séductions innocentes dans leurs cris, dans leurs prières, dans leurs exclamations, dans leurs appels à eux-mêmes, dans les hypothèques qu'ils offrent sur l'avenir, que Béatrix se gardait bien de répondre. Elle l'avait dit, elle doutait. Il ne s'agissait pas encore du bonheur, mais de la permission d'aimer que demandait toujours cet enfant, qui s'obstinait à vouloir prendre la place du côté le plus fort, le côté moral. La femme la plus forte en parole est souvent très faible en action. Après avoir vu le progrès qu'il avait fait en poussant Béatrix à la mer, il est étrange que Calliste ne continuât pas à demander son bonheur aux violences. Mais l'amour chez les jeunes gens est tellement extatique et religieux qu'il veut tout obtenir de la conviction morale, et de là vient sa sublimité. Néanmoins, un jour, le Breton, poussé à bout par le désir, se plaignit vivement à Camille de la conduite de Béatrix. « J'ai voulu te guérir en te la faisant promptement connaître, » répondit Mademoiselle des Touches, « et tu as tout brisé dans ton impatience. Il y a 10 jours, tu étais son maître. Aujourd'hui, tu es l'esclave, mon pauvre garçon. Ainsi, tu n'auras jamais la force d'exécuter mes ordres. » Que faut-il faire? Lui chercher querelle à propos de sa rigueur. Une femme est toujours emportée par le discours. Fais qu'elle te maltraite et ne reviens plus aux touches qu'elle ne t'y rappelle. Il est un moment dans toutes les maladies violentes où le patient accepte les plus cruels remèdes et se soumet aux opérations les plus horribles. Calliste en était arrivé là. Il écouta le conseil de Camille, il resta 2 jours au logis, mais le 3e, il grattait à la porte de Béatrix en l'avertissant que Camille et lui l'attendaient pour déjeuner. Encore un moyen de perdu, lui dit Camille en le voyant si lâchement arrivé. Béatrix s'était souvent arrêtée pendant ces 2 jours à la fenêtre d'où se voyait le chemin de Guérande. Quand Camille l'y surprenait, elle se disait occupée de l'effet produit par les agents du chemin, dont les fleurs d'or étaient illuminées par le soleil de septembre. Camille eut ainsi le secret de Béatrix, et n'avait plus qu'un mot à dire pour que Calliste fût heureux, mais elle ne le disait pas. Elle était encore trop femme pour le pousser à cette action dont s'effraient les jeunes cœurs qui semblent avoir la conscience de tout ce que va perdre leur idéal. Béatrix fit attendre assez longtemps Camille et Calliste. Avec tout autre que lui, ce retard eût été significatif, car la toilette de la marquise accusait le désir de fasciner Calliste et d'empêcher une nouvelle absence. Après le déjeuner, elle alla se promener dans le jardin et ravit de joie cet enfant qu'elle ravissait d'amour en lui exprimant le désir de revoir avec lui cette roche où elle avait failli périr. « Allons-y seuls, » demanda Calliste d'une voix troublée. « En refusant, » répondit-elle, « je vous donnerais à penser que vous êtes dangereux. Hélas, je vous l'ai dit mille fois, je suis à un autre et ne puis être qu'à lui. Je l'ai choisi sans rien connaître à l'amour. La faute est double, double est la punition. » Quand elle parlait ainsi, les yeux à demi mouillés par le peu de larmes que ces sortes de femmes répandent, Calliste éprouvait une compassion qui adoucissait son ardente fureur. Il l'adorait alors comme une madone. Il ne faut pas plus demander aux différents caractères de se ressembler dans l'expression des sentiments qu'il ne faut exiger les mêmes fruits d'arbres différents. Béatrix était en ce moment violemment combattue. Elle hésitait entre elle-même et Calliste, entre le monde où elle espérait rentrer un jour et le bonheur complet, entre se perdre à jamais par une seconde passion impardonnable et le pardon social. Elle commençait à écouter, sans aucune fâcherie, même jouée, les discours d'un amour aveugle. Elle se laissait caresser par les douces mains de la pitié. Déjà, plusieurs fois, elle avait été émue aux larmes en écoutant Calliste lui promettant de l'amour pour tout ce qu'elle perdrait aux yeux du monde, et la plaignant d'être attachée à un aussi mauvais génie, à un homme aussi faux que Conti. Plus d'une fois, elle n'avait pas fermé la bouche à Calliste quand elle lui contait les misères et les souffrances qui l'avaient accablée en Italie en ne se voyant pas seule dans le cœur de Conti. Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une leçon à Calliste, et Calliste en profitait. « Moi, lui disait-il, je vous aimerai absolument. Vous ne trouverez pas chez moi les triomphes de l'art, les jouissances que donne une foule émue par les merveilles du talent. Mon seul talent sera de vous aimer, mes seules jouissances seront les vôtres. L'admiration d'aucune femme ne me paraîtra mériter de récompense. Vous n'aurez pas à redouter d'odieuses rivalités. Vous êtes méconnu, et là où on vous accepte, moi, je voudrais me faire accepter, tous les jours. » Elle écoutait ses paroles la tête baissée, en lui laissant baiser ses mains, en avouant silencieusement mais de bonne grâce qu'elle était peut-être un ange méconnu. « Je suis trop humiliée, » répondait-elle, « mon passé dépouille l'avenir de toute sécurité. » Ce fut une belle matinée pour Calliste que celle où, en venant aux touches à 7 heures du matin, il aperçut entre 2 ajoncs à une fenêtre Béatrix coiffée du même chapeau de paille qu'elle portait le jour de leur excursion. Il eut comme un éblouissement. Ces petites choses de la passion agrandissent le monde. Peut-être n'y a-t-il que les Françaises qui possèdent les secrets de ces coups de théâtre. Elles les doivent aux grâces de leurs esprits. Elles savent en mettre dans le sentiment autant qu'il peut en accepter sans perdre de sa force. Ah, combien elle pesait peu sur le bras de Calliste. Tous deux, ils sortirent par la porte du jardin qui donne sur les dunes. Béatrix trouva les sables jolis. Elle aperçut alors ces petites plantes dures à fleurs roses qui y croissent. Elle en cueillit plusieurs, auxquelles elle joignit l'œillet des chartreux qui se trouvent également dans ces sables arides, et les partagea d'une façon significative avec Calliste, pour qui ces fleurs et ce feuillage devaient être une éternelle, une sinistre image. « Nous y joindrons du buis, » dit-elle en souriant. Elle resta quelque temps sur la jetée où Calliste, en attendant la barque, lui raconta son enfantillage le jour de son arrivée. « Votre escapade, que j'ai su, fut la cause de ma sévérité le premier jour, » dit-elle. Pendant cette promenade, Madame de Rochegude eut ce ton légèrement plaisant de la femme qui aime, comme elle en eut la tendresse et le laisser aller, Calliste pouvait se croire aimée. Mais quand, en allant le long des rochers sur le sable, ils descendirent dans une de ces charmantes criques où les vagues ont apporté les plus extraordinaires mosaïques, composées des marbres les plus étranges, et qu'ils y eurent joué comme des enfants en cherchant les plus beaux échantillons, quand Calliste, au comble de l'ivresse, lui proposa nettement de s'enfuir en Irlande, elle reprit un air digne, mystérieux, lui demanda son bras, et ils continuèrent leur chemin vers la roche qu'elle avait surnommée sa roche tarpéienne. « Mon ami, lui dit-elle, en gravissant à pas lents ce magnifique bloc de granit dont elle devait se faire un piédestal, je n'ai pas le courage de vous cacher tout ce que vous êtes pour moi. Depuis 10 ans, je n'ai pas eu de bonheur comparable à celui que nous venons de goûter en faisant la chasse aux coquillages dans ces roches à fleurs d'eau, en échangeant ces cailloux avec lesquels je me ferai faire un collier qui sera plus précieux pour moi que s'il était composé des plus beaux diamants. Je viens d'être petite fille, enfant, telle que j'étais à 14 ou 16 ans, et alors digne de vous. L'amour que j'ai eu le bonheur de vous inspirer m'a relevée à mes propres yeux. Entendez ce mot dans toute sa magie. Vous avez fait de moi la femme la plus orgueilleuse, la plus heureuse de son sexe, et vous vivrez peut-être plus longtemps dans mon souvenir que moi dans le vôtre. » En ce moment, elle était arrivée au faîte du rocher, d'où se voyait l'immense océan d'un côté, la Bretagne de l'autre avec ses îles d'or, ses tours féodales et ses bouquets d'ajoncs. Jamais une femme ne fut sur un plus beau théâtre pour faire un si grand aveu. « Mais, dit-elle, je ne m'appartiens pas. Je suis plus liée par ma volonté que je ne l'étais par la loi. Soyez donc punis de mon malheur, et contentez-vous de savoir que nous en souffrirons ensemble. Dante n'a jamais revu Béatrix, Pétrarque n'a jamais possédé sa Laure. Ces désastres n'atteignent que de grandes âmes. Ah, si je suis abandonnée, si je tombe de 1000 degrés de plus dans la honte et dans l'infamie, si ta Béatrix est cruellement méconnue par le monde qui lui semblera horrible, si elle est la dernière des femmes. Alors, enfant adoré, dit-elle en lui prenant la main, tu sauras qu'elle est la première de toutes, qu'elle pourra s'élever jusqu'aux cieux appuyée sur toi. Mais alors, ami, dit-elle en lui jetant un regard sublime, quand tu voudras la précipiter, ne manque pas ton coup. Après ton amour, la mort. » Calyste tenait Béatrix par la taille, il la serra sur son cœur. Pour confirmer ses douces paroles, Madame de Rochegude déposa sur le front de Calyste le plus chaste et le plus timide de tous les baisers. Puis ils redescendirent et revinrent lentement, causant comme des gens qui se sont parfaitement entendus et compris, elle croyant avoir la paix, lui ne doutant plus de son bonheur et se trompant l'un et l'autre. Calyste, d'après les observations de Camille, espérait que Conti serait enchanté de cette occasion de quitter Béatrix. La marquise, elle, s'abandonnait aux vagues de sa position, attendant un hasard. Calyste était trop ingénu, trop aimant pour inventer le hasard. Ils arrivèrent tous deux dans la situation d'âme la plus délicieuse et rentrèrent aux touches par la porte du jardin. Calyste en avait pris la clé. Il était environ 6 heures du soir. Les enivrantes senteurs, la tiède atmosphère, les couleurs jaunâtres des rayons du soir, tout s'accordait avec leurs dispositions et leurs discours attendris. Leur pas était égal et harmonieux, comme est la démarche des amants, leurs mouvements accusaient l'union de leurs pensées. Il régnait aux touches un si grand silence que le bruit de la porte en s'ouvrant et se fermant y retentit et dut se faire entendre dans tout le jardin. Comme Calyste et Béatrix s'étaient tout dit et que leur promenade pleine d'émotions les avait lassés, ils venaient doucement et sans rien dire. Tout à coup, au tournant d'une allée, Béatrix éprouva le plus horrible saisissement, cet effroi communicatif que cause la vue d'un reptile et qui glaça Calyste avant qu'il n'en vît la cause. Sur un banc, sous un frêne à rameaux pleureurs, Conti causait avec Camille Maupin. Le tremblement intérieur et convulsif de la marquise fut plus franc qu'elle ne le voulait. Calyste apprit alors combien il était cher à cette femme qui venait d'élever une barrière entre elle et lui, sans doute pour se ménager encore quelques jours de coquetterie avant de la franchir. En un moment, un drame tragique se déroula dans toute son étendue au fond des cœurs. « Vous ne m'attendiez peut-être pas si tôt, » dit l'artiste à Béatrix en lui offrant son bras. La marquise ne put s'empêcher de quitter le bras de Calyste et de prendre celui de Conti. Cette ignoble transition, impérieusement commandée et qui déshonorait le nouvel amour, accabla Calyste, qui s'alla jeter sur le banc à côté de Camille, après avoir échangé le plus froid salut avec son rival. Il éprouvait une foule de sensations contraires. En apprenant combien il était aimé de Béatrix, il avait voulu par un mouvement se jeter sur l'artiste, en lui disant que Béatrix était à lui. Mais la convulsion intérieure de cette pauvre femme, en trahissant tout ce qu'elle souffrait, car elle avait payé là le prix de toutes ses fautes en un moment, l'avait si profondément émue qu'il en était resté stupide, frappé comme elle par une implacable nécessité. Ces deux mouvements contraires produisirent en lui le plus violent des orages auxquels il eût été soumis depuis qu'il aimait Béatrix. Madame de Rochegude et Conti passaient devant le banc où gisait Calyste auprès de Camille. La marquise regardait sa rivale et lui jetait un de ces regards terribles par lesquels les femmes savent tout dire. Elle évitait les yeux de Calyste et paraissait écouter Conti qui semblait badiner. « Que peuvent-ils se dire ?» demanda Calyste à Camille. « Cher enfant, tu ne connais pas encore les épouvantables droits que laisse à un homme sur une femme un amour éteint. Béatrix n'a pas pu lui refuser sa main. Il la raille sans doute sur ses amours. Il a dû les deviner à votre attitude et à la manière dont vous vous êtes présenté à ses regards. « Il la raille ?» dit l'impétueux jeune homme. « Calme-toi, dit Camille, ou tu perdrais les chances favorables qui te restent. S'il froisse un peu trop l'amour-propre de Béatrix, elle le foulera comme un ver à ses pieds. Mais il est astucieux, Il saura s'y prendre avec esprit. Il ne supposera pas que la fière madame de Rochegude ait pu le trahir. Il y aurait trop de dépravation à aimer un homme à cause de sa beauté. Il te peindra sans doute à elle-même comme un enfant saisi par la vanité d'avoir une marquise et de se rendre l'arbitre des destinées de deux femmes. Enfin, il fera tonner l'artillerie piquante des suppositions les plus injurieuses. Béatrix alors sera forcée d'opposer de menteuses dénégations dont il va profiter pour rester le maître. Ah, dit Calliste, il ne l'aime pas. Moi, je la laisserai libre. L'amour comporte un choix fait à tout moment, confirmé de jour en jour. Le lendemain approuve la veille et grossit le trésor de nos plaisirs. Quelques jours plus tard, il ne nous trouvait plus. Qui donc l'a ramené ? Une plaisanterie de journaliste, dit Camille. L'opéra sur le succès duquel il comptait est tombé, mais à plat. Ce mot, il est dur de perdre à la fois sa réputation et sa maîtresse, dit au foyer par Claude Vignon, peut-être l'a sans doute atteint dans toutes ses vanités. L'amour basé sur des sentiments petits est impitoyable. Je l'ai questionné, mais qui peut connaître une nature si fausse et si trompeuse ? Il a paru fatigué de sa misère et de son amour, dégoûté de la vie. Il a regretté d'être lié si publiquement avec la marquise et m'a fait, en me parlant de son ancien bonheur, un poème de mélancolie un peu trop spirituel pour être vrai. Sans doute il espérait me surprendre le secret de votre amour au milieu de la joie que ces flatteries me causeraient. « Eh bien ?» dit Calliste en regardant Béatrix et Conti qui venaient et n'écoutant déjà plus. Camille, par prudence, s'était tenue sur la défensive. Elle n'avait trahi ni le secret de Calliste, ni celui de Béatrix. L'artiste était homme à jouer tout le monde, et Mademoiselle des Touches engagea Calliste à se défier de lui. « Cher enfant, lui dit-elle, voici pour toi le moment le plus critique. Il faut une prudence, une habileté qui te manque, et tu vas te laisser jouer par l'homme le plus rusé du monde, car maintenant je ne puis rien pour toi. » La cloche annonça le dîner. Conti vint offrir son bras à Camille, Béatrix prit celui de Calliste. Camille laissa passer la marquise la première, qui put regarder Calliste et lui recommander une discrétion absolue en mettant un doigt sur ses lèvres. Conti fut d'une excessive gaieté pendant le dîner. Peut-être était-ce une manière de sonder madame de Rochegude, qui joua mal son rôle. Coquette, elle eût pu tromper Conti, mais aimante, elle fut devinée. Le rusé musicien, loin de la gêner, ne parut pas s'apercevoir de son embarras. Il mit au dessert la conversation sur les femmes et vanta la noblesse de leurs sentiments. « Telle femme, près de nous abandonner dans la prospérité, nous sacrifie tout dans le malheur, disait-il. Les femmes ont sur les hommes l'avantage de la constance. Il faut les avoir bien blessées pour les détacher d'un premier amant. Elles y tiennent comme à leur honneur. Un second amour est honteux, etc. » Il fut d'une moralité parfaite, il encensait l'autel où saignait un cœur percé de 1000 coups. Camille et Béatrix comprenaient seules l'âpreté des épigrammes acérées qu'ils décochaient, d'éloge en éloge. Par moments, toutes deux rougissaient, mais elles étaient forcées de se contenir, elles se donnèrent le bras pour remonter chez Camille et passèrent d'un commun accord par le grand salon où il n'y avait pas de lumière et où elles pouvaient être seules un moment. « Il m'est impossible de me laisser marcher sur le corps par Conti, de lui donner raison sur moi, » dit Béatrix à voix basse. « Le forçat est toujours sous la domination de son compagnon de chaîne. Je suis perdue, il faudra retourner au bagne de l'amour, et c'est vous qui m'y avez rejeté. Ah, vous l'avez fait venir un jour trop tard ou un jour trop tôt. Je reconnais là votre infernal talent d'auteur. La vengeance est complète et le dénouement parfait. J'ai pu vous dire que j'écrirais à Conti, mais le faire ?» « J'en suis incapable, » s'écria Camille. « Tu souffres, je te pardonne. »« Que deviendra Calliste ?» dit la marquise avec une admirable naïveté d'amour-propre. « Conti vous emmène donc ?» demanda Camille. « Ah, vous croyez triompher ?» s'écria Béatrix. Ce fut avec rage et sa belle figure décomposée que la marquise dit ces affreuses paroles à Camille qui essaya de cacher son bonheur par une fausse expression de tristesse. Mais l'éclat de ses yeux démentait la contraction de son masque, et Béatrix se connaissait en grimace. Aussi, quand elles se virent aux lumières en s'asseyant sur ce divan, où, depuis 3 semaines, il s'était joué tant de comédies, et où la tragédie intime de tant de passions contrariées avait commencé, ces deux femmes s'observèrent-elles pour la dernière fois. Elles se virent alors séparées par une haine profonde. « Calliste te reste, » dit Béatrix en voyant les yeux de son amie. « Mais je suis établie dans son cœur, et nulle femme ne m'en chassera. » Camille répondit avec un imitable accent d'ironie et qui atteignit la marquise au cœur par les célèbres paroles de la nièce de Mazarin à Louis XIV. « Tu règnes, tu l'aimes et tu pars. » Ni l'une ni l'autre, durant cette scène, qui fut très vive, ne s'apercevait de l'absence de Caliste et de Conti. L'artiste était resté à table avec son rival, en le sommant de lui tenir compagnie et d'achever une bouteille de vin de champagne. « Nous avons à causer, » dit l'artiste, pour prévenir tout refus de la part de Caliste. Dans leur situation respective, le jeune Breton fut forcé d'obéir à cette sommation. « Mon cher, » dit le musicien d'une voix câline, au moment où le pauvre enfant eut bu deux verres de vin. « Nous sommes deux bons garçons, nous pouvons parler à cœur ouvert. Mais je ne suis pas venu par défiance. Béatrix m'aime, » dit-il en faisant un geste plein de fatuité. « Moi, je ne l'aime plus. Je n'accours pas pour l'emmener, mais pour rompre avec elle et lui laisser les honneurs de cette rupture. Vous êtes jeune, vous ne savez pas combien il est utile de paraître victime quand on se sent le bourreau. Les jeunes gens jettent feu et flamme, ils quittent une femme avec éclat, ils la méprisent souvent et s'en font haïr. Mais les hommes sages se font renvoyer et prennent un petit air humilié qui laisse aux femmes et des regrets et le doux sentiment de leur supériorité. La défaveur de la divinité n'est pas irréparable, tandis qu'une abjuration est sans remède. Vous ne savez pas encore, heureusement pour vous, combien nous sommes gênés dans notre existence par les promesses insensées que les femmes ont la sottise d'accepter quand la galanterie nous oblige à en tresser les nœuds coulants pour occuper l'oisiveté du bonheur. On se jure alors d'être éternellement l'un à l'autre. Si l'on a quelque aventure avec une femme, on ne manque pas de lui dire poliment qu'on voudrait passer sa vie avec elle. On a l'air d'attendre la mort d'un mari très impatiemment, en désirant qu'il jouisse de la plus parfaite santé. Que le mari meure, il y a des provinciales ou des entêtées assez niaises ou assez goguenardes pour accourir en vous disant « Me voici, je suis libre ». Personne de nous n'est libre. Ce boulet mort se réveille et tombe au milieu du plus beau de nos triomphes ou de nos bonheurs les mieux préparés. J'ai vu que vous aimeriez Béatrix. Je la laissais d'ailleurs dans une situation où, sans rien perdre de sa majesté sacrée, elle devait coqueter avec vous, ne fût-ce que pour taquiner cet ange de Camille Maupin. Eh bien, mon très cher, aimez-la, vous me rendrez service, je la voudrais atroce pour moi. J'ai peur de son orgueil et de sa vertu. Peut-être, malgré ma bonne volonté, nous faudra-t-il du temps pour opérer ce chassé-croisé. Dans ces sortes d'occasions, c'est à qui ne commencera pas. Là, tout à l'heure, en tournant autour du gazon, j'ai voulu lui dire que je savais tout et la féliciter sur son bonheur. Ah, bien, elle s'est fâchée. Je suis en ce moment amoureux fou de la plus belle, de la plus jeune de nos cantatrices, de Mademoiselle Falcon de l'Opéra, et je veux l'épouser. Oui, j'en suis là. Mais aussi, quand vous viendrez à Paris, verrez-vous que j'ai changé la marquise pour une reine. » Le bonheur répandait son auréole sur le visage du candide Caliste, qui avoua son amour, et c'était tout ce que Conti voulait savoir. Il n'est pas d'homme au monde, quelque blasé, quelque dépravé qu'il puisse être, dont l'amour ne se rallume pas au moment où il le voit menacé par un rival. On veut bien quitter une femme, mais on ne veut pas être quitté par elle. Quand les amants en arrivent à cette extrémité, femmes et hommes s'efforcent de conserver la priorité, tant la blessure faite à l'amour-propre est profonde. Peut-être s'agit-il de tout ce qu'a créé la société dans ce sentiment qui tient bien moins à l'amour-propre qu'à la vie elle-même, attaquée alors dans son avenir. Il semble que l'on va perdre le capital et non la rente. Questionné par l'artiste, Caliste raconta tout ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines aux touches et fut enchanté de Conti, qui dissimulait sa rage sous une charmante bonhomie. « Remontons, dit-il. Les femmes sont défiantes. Elles ne s'expliqueraient pas comment nous restons ensemble sans nous prendre aux cheveux. Elles pourraient venir nous écouter. Je vous servirai sur les deux toits, mon cher enfant. Je vais être insupportable, grossier, jaloux avec la marquise. Je la soupçonnerai perpétuellement de me trahir. Il n'y a rien de mieux pour déterminer une femme à la trahison. Vous serez heureux et je serai libre. » Jouez ce soir le rôle d'un amoureux contrarié. Moi, je ferai l'homme soupçonneux et jaloux. Plaignez cet ange d'appartenir à un homme sans délicatesse. Pleurez. Vous pouvez pleurer, vous êtes jeune. Hélas, moi, je ne puis plus pleurer. C'est un grand avantage de moins. Caliste et Conti remontèrent. Le musicien, sollicité par son jeune rival de chanter un morceau, chanta le plus grand chef-d'œuvre musical qui existe pour les exécutants, le fameux « Pria che spuntita aurora » que Rubini lui-même n'entame jamais sans trembler et qui fut souvent le triomphe de Conti. Jamais il ne fut plus extraordinaire qu'en ce moment où tant de sentiments bouillonnaient dans sa poitrine. Calliste était en extase. Au premier mot de cette cavatine, l'artiste lança sur la marquise un regard qui donnait aux paroles une signification cruelle et qui fut entendue. Camille, qui accompagnait, devina ce commandement qui fit baisser la tête à Béatrix. Elle regarda Calliste et pensa que l'enfant était tombé dans quelque piège malgré ses avis. Elle en eut la certitude quand l'heureux Breton vint dire adieu à Béatrix en lui baisant la main et en la lui serrant avec un petit air confiant et rusé. Quand Calliste atteignit Guérande, la femme de chambre et les gens chargeaient la voiture de voyage de Conti, qui, dès l'aurore, comme il l'avait dit, emmenait jusqu'à la poste Béatrix avec les chevaux de Camille. Les ténèbres permirent à Madame de Rochegude de regarder Guérande, dont les tours, blanchies par le jour, brillaient au milieu du crépuscule, et de se livrer à sa profonde tristesse. Elle laissait là l'une des plus belles fleurs de la vie, un amour comme le rêvent les plus pures jeunes filles. Le respect humain brisait le seul amour véritable que cette femme pouvait et devait concevoir dans toute sa vie. La femme du monde obéissait aux lois du monde, elle immolait l'amour aux convenances, comme certaines femmes l'immolent à la religion ou au devoir. Souvent l'orgueil s'élève jusqu'à la vertu. Vue ainsi, cette horrible histoire est celle de bien des femmes. Le lendemain, Calliste vint aux Touches vers midi. Quand il arriva dans l'endroit du chemin d'où la veille il avait aperçu Béatrix à la fenêtre, il y distingua Camille qui accourut à sa rencontre. Elle lui dit au bas de l'escalier ce mot cruel. « Parti !»« Béatrix !» répondit Calliste foudroyé. « Vous avez été la dupe de Conti. Vous ne m'avez rien dit, je n'ai rien pu faire. » Elle emmena le pauvre enfant dans son petit salon. Il se jeta sur le divan à la place où il avait si souvent vu la marquise et y fondit en larmes. Félicité ne lui dit rien. Elle fuma son hookah, sachant qu'il n'y a rien à opposer aux premiers accès de ses douleurs, toujours sourdes et muettes. Calliste, ne sachant prendre aucun parti, resta pendant toute la journée dans un engourdissement profond. Un instant avant le dîner, Camille essaya de lui dire quelques paroles après l'avoir prié de l'écouter. « Mon ami, tu m'as causé de plus violentes souffrances, et je n'avais pas comme toi pour me guérir une belle vie devant moi. Pour moi, la terre n'a plus de printemps, l'âme n'a plus d'amour. Aussi, pour trouver des consolations, dois-je aller plus haut. Ici, la veille du jour où vint Béatrix, je t'ai fait son portrait. Je n'ai pas voulu te la flétrir, tu m'aurais cru jalouse. Écoute aujourd'hui la vérité. Madame de Rochegude n'est rien moins que digne de toi. L'éclat de sa chute n'était pas nécessaire. Elle n'eût rien été sans ce tapage. Elle l'a fait froidement pour se donner un rôle. Elle est de ces femmes qui préfèrent l'éclat d'une faute à la tranquillité du bonheur. Elles insultent la société. Pour en obtenir la fatale aumône d'une médisance. Elles veulent faire parler d'elle à tout prix. Elle était rongée de vanité. Sa fortune, son esprit n'avaient pu lui donner la royauté féminine qu'elle cherchait à conquérir en trônant dans un salon. Elle a cru pouvoir obtenir la célébrité de la duchesse de Langeais et de la vicomtesse de Beauséant. Mais le monde est juste. Il n'accorde les honneurs de son intérêt qu'aux sentiments vrais. Béatrix, jouant la comédie, est jugée comme une actrice de second ordre. Sa fuite n'était autorisée par aucune contrariété. L'épée de Damoclès ne brillait pas au milieu de ses fêtes, et d'ailleurs, il est très facile à Paris d'être heureuse à l'écart quand on aime bien et sincèrement. Enfin, aimante et tendre, elle n'eût pas cette nuit suivi Conti.